Salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Q&A, on ne sait pas quoi parler aujourd'hui. Q&A, c'est ça, that's it. Q&A. Quand on ne sait pas quoi dire, là, on dit, mettez-nous des questions sur Patreon, on y répond une en arrière de l'autre, puis on part avec ça.
Okay. Ben, ça nous force à être plus court sur certains sujets, c'est juste pour ça qu'on fait ça.
Ah oui, première question, première question!
Go!
Ben, première question, regarde, j'y vais avec un truc très sérieux. Puis Vincent, je sais que tu l'as déjà vu passer sur Patreon. C'est Chris qui dit « Salut gang! » Un petit fait sur Vincent que peu de gens probablement savent. Saviez-vous qu'il est un excellent tireur de pigeons d'argile? Je l'ai vu de mes yeux il y a une couple d'années. J'avais été impressionné de son taux de réussite. Là, je ne lirai pas ta réponse que tu as faite sur Patreon parce que je ne sais pas si ça se dit en public.
Mais quel sport d'élitiste pareil. Le pigeon d'argile.
Non, attends. Mais ça, c'est parce que l'histoire derrière, c'est que c'était le National Rifle Association.
Pas la NRA.
Non. Le groupe canadien d'armes à feu. C'est quoi son nom?
Ouais, c'est un truc qui ressemble à ça, mais c'est pas NRA, mais c'est...
C'est Canadian Firearm Association... pas Firearm... Rifle Association...
C'est quelque chose comme ça. Un autre des lobbies qui financent notre podcast.
Bon, quelque chose comme ça. Ils avaient une activité pour montrer aux gens c'est quoi tirer une arme à feu. Mais comme je suis partisan du libre port d'armes, j'ai dit je vais y aller, je vais donner de l'argent. Mais aussi, ce qu'il y avait, l'activité, ce qu'ils avaient, c'est que tu pouvais tirer certaines armes. Un, faire du tir au pigeon d'argile, mais aussi tirer des armes rares, comme par exemple un Colt 1911, qui est le premier Browning Colt 1911. Donc le
pour faire ton Clint Eastwood, là.
Ben, c'est ça. Puis il y avait un 44 Magnum qui était dans la liste des choses que tu pouvais tirer. Et je me suis dit, j'ai jamais tiré. Mais ben, c'est parce que je voulais dire, do you feel lucky? Well, do you punk? Fait que je me suis dit, ça va être le fun en même temps, tu sais, que ça me dérange pas de donner mon argent à cette cause-là. On y va, on fait du tir. Mais quand j'étais petit, mon grand-père m'avait montré comment aller à la chasse. Fait que je savais déjà comment manier une arme à feu. Et une autre personne m'avait montré comment
faire. Tu mettais pas la crosse à côté sur ton orbite.
Non, mais tu sais aussi la manière de poser tes jambes, de balancer ton poids, de comment absorber le choc pour pas que ça te fasse mal. Des choses que mon grand-père m'avait montré. Puis après ça, plus tard, j'avais un ami à Ottawa qui s'appelait Emmanuel Dion Weiss, qui lui est un collectionneur d'armes à feu, m'avait amené, quand j'allais le voir, on allait tirer des armes à feu dans un range à Ottawa. Donc, on faisait du tir au pigeon. Et c'est super le fun. Pour vrai, c'est super plaisant comme activité. Mais j'avais déjà de la pratique à ce moment-là à cause de mon grand-père puis à cause d'Emmanuel. Et j'avais tiré. Ils avaient une 22, mais qui était, je pense, je me souviens de me rappeler, mais était, je pense, semi-automatique. Donc, c'était pas une 22 à carabine avec chargement arrière.
Ouais.
C'était une 22 avec un magasin. Donc, c'était le tir était plus rapide. J'ai encore la photo sur mon téléphone. Fait que j'avais jamais tiré avec un arme comme ça. C'était beaucoup plus difficile qu'avec une carabine conventionnelle parce que t'as la carabine conventionnelle, tu as juste un coup qui t'est donné quand tu tires. Mm-hmm. Fait qu'il suffit juste que dès que tu as tiré une fois, tu peux tirer la deuxième shot juste après parce que normalement, ta carabine a deux points de chargement en arrière. Tu ouvres, tu as une, deux balles, puis that's it. Mais le choc n'est pas particulièrement gros, surtout que le fusil est long. Tandis que celui que j'avais tiré était plus court, mais aussi il avait beaucoup plus de peau. Fait que j'avais vraiment de la difficulté à tirer avec celui-là pour vrai. Mais c'était quelque chose, c'était vraiment une expérience de tirer ces armes-là. Puis c'est triste parce que je pense que l'association... Hein?
Paul,
oui. Par contre, celui qui est vraiment difficile...
Hey, je te vois faire ça avec un monocle et un chapeau melon, là, c'est l'enfer.
Ben écoute, ça, il mon est tellement élitiste que si ses parents étaient arrivés, ben fait, hey, serais-tu intéressé par prendre des cours de musique? Il aurait choisi la cornemuse, genre, comme instrument. C'est le genre. Tu sais, que les autres enfants sont comme, « Wow, la guitare, le drum, j'aimerais ça jouer du drum, t'as Vincent avec sa cornemuse. »
Son kill, t'as dit. If it's not Scottish, it's crap.
C'est ça.
Mais, non, mais je suis juste élitiste dans mes croyances, pas dans mon comportement.
Ouais.
Mais le plus dur, par contre, le tir au pigeon, c'est facile parce que la trajectoire est super élevée. Puis le temps que... Parce que quand tu as un tir au pigeon puis le pigeon monte, à un moment donné, la vélocité du pigeon diminue au fur et à mesure qu'elle approche le point critique de la courbe. Fait que là, c'est là que tu attends qu'elle se rende vers le sommet pour la pogner parce que là, elle est la moins rapide et plus prévisible. Mmh. C'est le point critique auquel tu tires. D'ailleurs, c'est là que tu peux voir, en fait, c'est mon exemple quand j'enseigne des dérivés. C'est littéralement mon exemple de quand est-ce que tu tires, ben c'est quand tu trouves le point critique. Fait que quand tu fais tes conditions de premier ordre, c'est là que tu tires. Fait que c'est ma joke en cours. Fait que là, mes étudiants se demandent si vraiment je suis pas né aux États-Unis. Parce que j'ai aucun problème avec les armes à feu. Mais l'autre qui est plus difficile, c'est le tir au lièvre. Je ne sais pas c'est quoi en français exactement, mais c'est skeet en anglais. Mmh. C'est que le pigeon est lancé, mais il va se déplacer latéralement comme si c'était un lièvre qui se promène dans la fosse. Fait que le pigeon a pas la perte de vélocité est pas mal constante au fur et à mesure.
C'est pas une parabole.
C'est ça. Fait que là, celui-là, il est particulièrement difficile. Quand j'essaye celui-là, je te dirais que je manque à peu près 60% de mes coups. C'est vraiment difficile. En tout cas, pour moi, là, c'est celui que je trouve le plus dur.
Il y a quelqu'un qui demande, Claude, qui pose la question. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé en Grèce il y a quelques années, la quasi-faillite puis sauvée in extremis par l'Union européenne? Est-ce qu'un événement semblable pourrait se produire au Québec ou au Canada vu la dégradation des finances du gouvernement?
Ben, il y a des conditions que tu n'as pas au Québec que tu avais en Grèce, notamment la Banque centrale gérée par l'Union européenne, mais les obligations émises par le pays qui était la Grèce.
Ouais.
Je veux dire, c'est des conditions qui sont quand même assez particulières. Ici, oui, le Québec peut émettre des obligations, tout ça, mais sont toutes backées par le gouvernement fédéral. Puis il y a quand même une fédération canadienne qui fait des transferts fédéraux vers les provinces. T'as le système de péréquation aussi. C'est des choses qui sont pas présentes.
Oui, mais tu as aussi le fait que le Québec fait vraiment économiquement partie du Canada. Il n'y a aucun doute là-dessus. La Grèce est plus périphérique à l'Europe, ce qui fait que... Parce qu'il y a une théorie qui s'appelle l'Optimal Currency Area. C'est que pour que tu partages la même monnaie, il faut que tu aies un niveau d'intégration avec les autres qui partagent la même monnaie que toi, qui est assez élevé. La Grèce ne partageait pas ce niveau d'intégration-là, selon certains comptes.
Ben, de par la langue, déjà là, la Grèce n'est pas très incluse dans l'Union européenne. Tu sais, je veux dire...
Non, c'est ça.
Tous les Québécois que j'ai connus qui ont voyagé en Grèce me disent toute la même affaire. C'est pas un pays facile à aller. Il y a très peu de gens qui connaissent l'anglais.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'économiquement, ils sont beaucoup plus... leurs secteurs sont vraiment très différents en termes d'ouverture au commerce international. Donc, ils sont exposés à des flots d'échanges qui viennent de d'autres endroits. Donc, le résultat, ce qui s'est passé, c'est quand ils ont eu leur crise de finances publiques. Normalement, ce qui se serait passé pour un pays comme le Canada dans une crise comme ça, c'est que le taux de change aurait dévalué.
Oui.
Le résultat aurait été que la dévaluation du taux de change aurait créé une sorte de coussin qui minimise l'entièreté de la chute.
Qui aurait facilité les exportations, par exemple.
Exactement. C'est ce qu'on appelle un automatic stabilizer qui minimise l'aspect cyclique qui est associé à ça. La Grèce ne pouvait pas avoir ce mécanisme-là parce qu'elle était pognée avec un taux de change qui était beaucoup plus déterminé en Allemagne qu'en Grèce. Mm-hmm. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut que tu aies une déflation beaucoup plus prononcée que ce que tu aurais eu normalement. Donc, ce qui s'est passé en Grèce, c'est là que tu as eu... C'est pour ça que dans les mesures d'austérité, il y avait une résistance très forte parce qu'il fallait couper non seulement les prix en général, mais il fallait aussi couper les salaires. Parce que tu ne peux pas...
Il fallait vendre des actifs, là.
C'est ça. Il y a eu énormément de liquidations qui se sont faites, mais il fallait aussi que tu baisses les salaires nominaux de tout le monde. Ces ajustements-là, de la déflation forcée comme ça, c'est jamais bon parce que tu as plein de contrats qui sont en termes fixes. Donc là, tu as un contrat qui dit que tu dois 3% sur le montant qui était pré-déflation. Mais là, tu viens de réduire les prix de tous tes salaires notamment, donc le fardeau réel de ta dette augmente. Ce qui était vicieux en Grèce.
Juste donner un exemple, les obligations de 10 ans en Grèce ont frappé des taux comme 33 ou 35 %. Ça veut dire que le marché financier ne croyait vraiment pas le gouvernement grec en état de rembourser cette dette-là. Parce que des taux de marché de 33%, c'est une obligation de 10 ans. Là. Je veux dire, c'est une catastrophe. Là. Personne ne veut se rendre là. Là présentement, les gens commencent à souffrir un peu de l'inflation, puis on parle de taux d'intérêt de 10 ans au Canada, aux États-Unis, de 4,15%. Les autres, ils ont goûté à du 33, là.
Oui, mais tout le monde parle de la dette là, dans cette histoire-là qui était, là, je regarde les chiffres, c'est 177% du PIB là, quand ça commençait.
On est plus élevé que ça ici au Canada. Là.
À péter, mais l'affaire, c'est qu'il y avait un déficit structurel là, qui était genre 15% du PIB à chaque année.
Oui, puis il y avait des fonctionnaires qui étaient payés 14 mois dans une année de 12.
En plus, en plein milieu de cette crise-là, sont allés élire un gars qui était président de l'Internationale socialiste. Ça a dû vraiment à être le meilleur move possible.
Oui, je me rappelle de ça.
Comment il s'appelait? Papandréou, quelque chose de même?
Papandréou.
Papandréou.
Ah ouais.
Écoute, je t'ai envoyé un lien juste pour montrer. Là, ça, c'est la même méthode que je parle comme tout le temps. Je pense que les auditeurs doivent être super familiers avec le nombre de fois que je l'ai mentionné, mais la méthode des contrôles synthétiques, qui est comme la manière d'identifier l'effet d'un choc quand tu n'as pas un grand nombre de données. Mm-hmm. Puis si tu vas dans l'article à page 21, fait que ça, c'est écrit par des gens avec qui j'étais à Texas Tech et une des étudiantes. Fait que là, le premier... En fait, le graphique juste à la page en haut, excuse-moi. Okay. Non, descend encore un tout petit peu. Le premier graphique que tu vois, c'est figure 1.
OK.
À la figure 1, là, ce qui est vraiment super... C'est ça, celle-là. Ce qui est vraiment clair dans ce graphique-là, c'est qu'il faut que tu t'imagines que la question qui est posée, c'était quoi l'effet d'avoir joint l'Union monétaire européenne? Puis ce que tu vois, c'est quand ils joignent l'Union européenne, donc l'euro, tu vois qu'il y a un effet positif sur la croissance économique et le gouvernement emprunte parce que les taux d'intérêt ne sont plus déterminés par les finances publiques. Par uniquement les finances publiques grecques et la qualité de la monnaie de la Grèce, mais plutôt par la qualité des politiques monétaires qui sont largement allemandes, françaises, belges, hollandaises et Luxembourg. Parce que l'Union européenne, en réalité, là, c'est la section qui fait du sens, là, c'est l'Allemagne, la France puis les trois pays qui sont coincés ensemble. Le reste, là, c'est dur d'argumenter que ça devrait en faire partie. Mais premier effet, joint l'euro, grosse expansion, un gros gain économique, mais l'État en profite pour dire on peut grossir maintenant, on n'a plus les mêmes coûts de nos politiques publiques qu'avant. Donc,
c'est la capacité des travailleurs de passer d'un pays à l'autre qui facilite beaucoup ces gains économiques-là, tu penses? Ou...
Je pense qu'il y a plusieurs effets. La première, c'est que dans le cas des politiques monétaires, c'est que en fait, le bon exemple, c'est que tu as plein de pays qui vont souvent adopter le dollar américain. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, comme d'adopter le dollar américain comme monnaie? C'est parce que personne ne croit à leur banque centrale. Fait que tout le monde s'attend à ce que le gouvernement intervienne et que la monnaie soit de la merde.
Ils se protègent de l'inflation d'une certaine manière.
Quand le gouvernement dit « je vais importer la politique monétaire américaine », ce qu'ils font, c'est un commitment crédible à une meilleure politique monétaire parce qu'ils disent « je vais abandonner complètement le désir de faire de la politique monétaire parce qu'il n'y a personne qui me croit. » Puis le résultat, par contre, c'est que les investisseurs maintenant sont capables de faire des plans. Ils savent qu'il n'y aura pas de choc d'inflation. C'est ça le gain. La Grèce, l'idée, c'est quand ils se sont joints à l'euro, le gain, c'était que les entrepreneurs se disaient que maintenant, la Banque centrale grecque, auquel je n'ai absolument pas confiance, n'a plus de rôle dans la détermination des politiques monétaires. Donc, j'ai un gain de crédibilité institutionnelle, de qualité institutionnelle. Le problème, c'est que le gouvernement s'est dit, ben écoute, on est capable d'avoir la même qualité de marde, fait qu'on va faire plus des choses qu'on ne faisait pas bien, parce que ça a été amélioré. Donc, tu as une expansion massive des déficits, de la taille de l'État.
Il aurait été de ce que je comprends, autrement dit, il aurait été dans le trouble bien avant ça, s'il n'y avait pas eu l'euro. S'il avait gardé la monnaie grecque, il y a les problèmes qui ont créé de manière structurelle auraient pété avant. Là.
En fait, je pense qu'ils auraient eu la même récession que tout le monde en 2007, 2008, 2009. Ils auraient eu exactement la même récession que tout le monde. Parce qu'ils auraient eu, OK, fine, ils auraient eu moins de croissance dans la période intermittente, mais le choc, parce que là, la partie qui est intéressante dans le graphique, c'est que si tu regardes, dès que la récession se passe, ils sous-performent la prédiction qui est faite. Dans la période des premières 10 ans après les premières 7-8 ans après d'être joint à l'euro, il surperforme, mais après, il sous-performe massivement. Fait que c'est comme si tu disais, ben, première période, ça, c'est un gain institutionnel, mais après, les mauvaises incitations que ça a créées ont généré une récession plus longue. Ce qui se serait probablement passé, c'est que la Grèce aurait cru probablement à la même vitesse tout le long. Parce qu'ici, ce que tu vois, c'est que les premières 7 ans sont annulées par le deuxième batch de 7 ans. Fait que la Grèce serait à peu près dans la même condition aujourd'hui que la prédiction dit que ça ne s'était pas joint à l'euro à cause des incitations que ça a eu sur les politiciens. Ça ne peut pas se produire au Québec.
C'est un peu comme une personne qui a eu une chirurgie bariatrique, puis finalement, s'est servi de cette chirurgie-là pour continuer de manger pareil après, puis...
Ben oui, maintenant, ouais, je peux manger...
Créer un problème pire, là, t'sais.
Oh ouais. Mais ça ne peut pas se passer. Ce genre de crise-là ne peut pas se passer au Québec. C'est beaucoup plus susceptible que ça se passe au niveau fédéral s'il y a au net une accumulation des dettes de toutes les provinces plus le fédéral. Donc, ce n'est pas impossible. Mais dans ce cas-ci, il y a quand même une grande vertu du système canadien, c'est que le taux de change va pouvoir s'ajuster de telle sorte que tu n'auras pas la même contraction.
À 60 sous, les Américains sont bien contents d'acheter notre stock, là.
Oui, oui. Puis je pense que ce qui est plus plausible en termes de crise de finances publiques au Canada, c'est qu'on ait quelque chose qui devienne comme de la répression financière. Puis la répression financière, ce que c'est fondamentalement, c'est que l'État empêche aux capitaux de se déplacer et se sert de l'inflation pour réduire sa dette. Donc, à toute fin pratique, il taxe implicitement le capital en refusant de lui payer le rendement qui est promis.
Dans la mise à jour qu'on vient de faire, c'est une idée des démocrates aux États-Unis. Ils se disent, les entreprises qui font des share buyback, c'est, ça n'a pas de bon sens,
exactement
ça. Ils redonnent l'argent aux actionnaires. Parce que, tu sais, un buyback, c'est quoi? C'est que tu as des actions en circulation, tu as des liquidités dans l'entreprise. Les actionnaires, de par le prix de l'action, ils ne disent pas directement, mais quand le prix de l'action bouge, c'est la manière de s'exprimer pour les actionnaires. Ils disent, écoute, tes projets de marde, mettons le métavers de Facebook, tes projets de marde, peux-tu arrêter de mettre de l'argent là-dedans? À la place, envoie-moi du dividende ou fais des share buyback, mais arrête d'utiliser les liquidités pour tes hosties de niaiseries. Fait que c'est ça que le message est envoyé par Wall Street souvent. Fait que les entreprises, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre en place des programmes de dividendes ou vont mettre en place des programmes de rachat d'actions, des share buyback. Ben là, dans l'idée, nos géniaux politiciens, là, eux autres, ils se disent « on préférait que les entreprises continuent à investir. Je veux pas que les entreprises redonnent l'argent aux actionnaires. Je veux qu'ils continuent à investir, qu'ils investissent dans des projets plus green. » Fait que pour enlever l'incitatif, qu'est-ce qu'on va faire? On va taxer les share buyback de l'ordre jusqu'à 1%. Ben, tabarnache, on vient de faire la même affaire au Canada. Là, t'es là, tu te dis... Ah, voyons, c'est de quoi vous vous mêlez, là?
Mais ça, c'est de la répression. Pas, ouais.
Ça, l'argent est déjà taxé, by the way, là.
Non, mais ce que tu fais avec ça, là, c'est parce que ce qui se passe, puis c'est pour ça que c'est important, c'est que présentement, il y a beaucoup d'inflation, OK? Donc, la valeur réelle des dettes du gouvernement baisse. Normalement, ce qui pourrait se passer, c'est que les gens qui détiennent du capital se disent, ben je vais le déplacer dans des endroits où le flot de revenus va être plus en termes réels que celui au Canada. Mais là, ce que tu fais, c'est que si tu empêches au capital de quitter, donc tu empêches au revenu du capital aussi de quitter, tu peux le taxer davantage. Et donc, tu le taxes non seulement en termes du revenu qui vient de ça, mais tu es capable de le taxer via l'inflation parce que tu réduis combien tu dois lui repayer. Tu réduis le flot de revenus que tu dois lui donner à toute fin pratique en termes réels. La répression financière, là, c'est vraiment la manière dont des pays comme le Canada généralement réussissent à éliminer leurs dettes, c'est qu'ils font cette espèce d'épisode-là dans lequel ils trouvent des manières subtiles d'implicitement taxer le capital pour réduire la dette, mais c'est pas un remboursement, puis c'est pas des coupures de dépenses, c'est pas de l'assainissement des finances publiques, c'est une manière cachée, mais les coûts économiques de la répression financière sont 10 fois plus élevés que les coûts, que le coût de la taxation directe.
Mais justement, c'est pas quelque chose qui alimente encore plus l'inflation, ça?
Oui, parce que l'incitation dans ce cas-ci, c'est de se servir de l'inflation.
Ben,
parce
c'est
que ça. Dans ce cas-ci, c'est que le gouvernement, puis ça, c'est les grands dangers de l'inflation, c'est que le gouvernement, c'est la forme de taxation qui est très coûteuse sur une petite échelle, mais quand tu as rejoint un certain point, il y a comme une sorte de point critique dans lequel, là, tu t'en sers vraiment beaucoup, parce que tu peux réduire ta dette massivement.
Après les guerres mondiales, par exemple, United Kingdom, des places de main.
Oui, mais c'est pas toi qui paye les coûts politiques. C'est celui qui se retrouve avec la patate chaude de devoir réduire les dépenses publiques et de faire une contraction de la masse monétaire. C'est que ce qu'il est en train de faire, c'est un jeu de chaise musicale de c'est qui le pauvre SOB qui se retrouve premier ministre quand c'est le temps de dire OK, il faut qu'on slash la masse monétaire.
Qui va avoir la job sale, ouais, c'est ça.
Fait que tu te retrouves avec des Philippe Couillard qui payent le coût politique indirectement, ou aux États-Unis, c'était Ronald Reagan, ou Thatcher en Angleterre, ou peu importe ce qu'on dit, je veux dire, même si c'est clair que Reagan, Thatcher ont fait des révolutions économiques à toute fin pratique, l'image qu'ils auraient associée, c'était d'être des sans-cœurs parce qu'ils ont eu à...
Madame de Fer.
We gotta stop the gravy train.
Madame de Fer, c'est venu directement de ça.
Mais c'est pas un peu dans la même logique aussi, les puis je pense qu'il y avait une question là-dessus, fait que c'est pas grave si j'empiète sur une autre question, là, mais c'est un peu ce qu'on avait dit, tu sais, Manon, on avait parlé justement de l'inflation, là, puis par rapport à la dette, puis la conclusion un peu, c'était justement aussi qu'une autre des affaires pour noyer ça, ou bien pour justement faire descendre le ratio, c'était l'immigration. Puis comme par hasard, justement, Trudeau vient d'annoncer qu'ils veulent passer de 400 000 à 500 000 par année. Là, ça va créer, c'est en train de créer quasiment une crise constitutionnelle, là, cette affaire-là.
Mais ça me fait de la peine calls, en passant.
Oui, mais avant de faire des calls de même, il pourrait-tu s'arranger sacrément que ça ne prenne pas 15 mois de formulaire puis de paperasse à remplir pour faire immigrer quelqu'un?
Ben, c'est ça. Moi, mon point, c'était ça, c'est qu'ils ne sont même pas capables de gérer les demandes actuelles. Il n'y a pas une journée que je ne lis pas dans le journal des affaires des gens qui sont arrivés au Canada, puis ça fait 3 ans qu'ils attendent des papiers pour ci puis pour ça. Puis,
écoute, il y a quelqu'un, dans le fond, qu'on connaît au lac Saint-Jean. Là. C'est une Française. Elle a été expatriée pendant un an. Son visa de travail a expiré. Il n'y avait rien à faire. Pas capable de continuer à travailler au Québec. Elle a été obligée de partir du Québec, retourner en France un an, expatrié complètement, pour finalement pouvoir revenir une fois ses papiers en ordre. OK, ça a été établi ici, là, elle travaillait, là. Elle était heureuse, elle voulait rester ici. On est chanceux, elle est revenue.
Écoute, en plus de ton point qui est absolument valide, je trouve ça quand même plate. Je veux dire, je comprends qu'il y a une vertu pro-finance publique d'avoir plus d'immigrants, mais je trouve toujours que c'est un hostie d'argument de mongol de dire pour régler notre bordel, on va demander à quelqu'un qui n'a aucune obligation en termes de dégâts qu'on a causés de payer pour nous indirectement, donc de nous sortir de la merde. Je veux dire, je ne sais pas là, c'est quoi ton niveau de moralité, mais si c'est ça dans ta logique, c'est mieux, c'est bon de laisser l'immigrant venir indépendamment là, parce que tu lui donnes une meilleure qualité de vie, puis nous, on gagne aussi en termes de productivité. Oui. Mais c'est quand même, si ton argument sur lequel tu décides de t'accrocher, comme par exemple la très bonne chef du Parti libéral, mec du Parti libéral de Bourguignon, disait, mais il faut le faire en partie pour les finances publiques, je trouvais tellement que c'était l'argument le plus condescendant. C'est comme, ben, pour régler nos dégâts, pour régler notre bordel qu'on a fait, on va demander à quelqu'un qui n'a aucune responsabilité de venir puis de contribuer à régler le problème.
Ouais, viens donc chez nous laver des personnes âgées puis payer de l'impôt, mon esti. Ça ressemble
à ça. C'est vraiment, tu sais, je veux juste souligner que.
Puis n'oublie pas de remplir ton formulaire F1214-4-8.
Oh,
parce
oui.
que ouais. si on ne l'a pas en temps, on ne pourra pas l'analyser pendant 8 mois. Peut-être
puis lis les petits caractères parce qu'en bas, c'est écrit que si t'as pas appris le français dans les 6 prochains mois, tu colles dehors après. Oh, ouais.
Mais tu sais, si c'est ça, tu sais, dans les arguments pro-immigration, puis je veux juste rappeler aux auditeurs, parce qu'il y a toujours des gens comme les sortons des poubelles qui ont une capacité d'attention à peu près aussi élevée qu'un poisson d'un un goldfish, un petit poisson rouge, parce que là, il faut que je répète, je suis très pro-immigration. Il n'y a pas personne au Québec qui dit open borders plus dur que moi. De tous les arguments pro-immigration, c'est celui-là que je ne veux pas me servir. De dire que. Ah non, mais.
Régler un problème de finances publiques.
Non, non. Le problème de finances publiques, là, tu le règles on its own. Okay? C'est ta job d'amener de réaliser que tu ne peux pas dépenser plus que ça. Puis que c'est pas, tu ne devrais pas demander à quelqu'un qui vient d'un pays de marde. Parce que s'il vient ici, il est en train de dire qu'il préfère nous à autre. Donc, l'autre est peut-être pas de la marde, mais il est plus de la marde que nous. S'il a fait ce choix-là. C'est pas à lui. Tu devrais pas lui demander de payer pour le dégât que toi, tu as voulu causer parce que toi, tu voulais que le gouvernement te donne 5 000 $ quand tu faisais un enfant. Je m'excuse, là, mais non.
Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, l'autre point là-dedans, moi, qui me fait capoter, c'est comme si t'as l'impression que, tu sais, parce que là, lui, il sort ça de son chapeau de même, là, puis là, t'as l'impression que les autres agents des gouvernements provinciaux, eux, apprennent ça dans le journal comme nous autres. Là, t'es comme, mais Chris, vous parlez pas, vous autres, ou quoi, là?
Ouais, puis
genre, avant de faire cette sortie-là, appelle les provinces, puis arrange-toi avec eux autres, au lieu de nous constater ce shit show-là de là, on va avoir la noyade démographique, hey, puis là, toute la maudite.
S'entends-tu sur une affaire, là, quand tu fais venir un immigrant, là, oui, le fédéral là, a démêlé ses papiers, puis faire le passeport, puis faire toutes les astuces de patente de citoyenneté. Ils ont de la misère à le faire comme du monde. Mais les provinces ont à avoir assez de profs de leur côté, à avoir assez d'infirmières, à s'assurer que les ressources du système de santé et d'éducation sont prêts à accueillir du monde aussi. Tu ne peux pas apprendre ça à la dernière minute. Là. Tu ne peux pas dire « Hey, OK, by the way, tu rentres 50 000 personnes de plus l'année prochaine. » Hein? T'as peu, là? It's short notice?
C'est qu'en plus, c'est que l'incompétence de l'État dans le j'ai pas le bon mot, là, mais dans l'incompétence de l'État pour délivrer les services qui est tellement affreuse que là, tu crées artificiellement une genre de xénophobie parce que là, les gens sont comme « Ouais, mais moi, j'attends depuis 3 ans d'avoir une place en CPE. Moi, j'ai pas de médecin de famille. Moi, j'ai pas telle affaire parce que le gouvernement est incapable. »
On manque de profs dans nos classes, là.
Ouais,
il y a des enfants qui ont commencé l'école secondaire cette année avec pas de prof de maths. Là.
Mais moi, je te le dis, ce qui va arriver, puis c'est déjà en train d'arriver, c'est que ces gens-là, la réaction qu'ils finissent par avoir, c'est « Mais là, pourquoi ils font venir du monde ici alors qu'on n'est même pas capable d'avoir les services de base qu'on est supposé d'avoir droit? » C'est de même que ça va finir. Là. Ça, c'est de même que tu crées des tensions sociales puis du discours haineux. Là.
C'est toujours un débat de chiffres. Hein? On en veut 500 000, on en veut 400 000, alors que pour le citoyen normal, ça ne veut rien dire dans sa tête. Ça ne veut absolument rien dire. C'est juste, on dirait qu'on garoche des chiffres pour créer une diversion un peu pour que les groupes politiques opposés tombent dans le panneau de dire « Non, nous autres, on en veut moins. Nous autres, on en veut plus. » Le chiffre n'est pas important. C'est juste savoir qui en veut moins, qui en veut plus, puis après, ils sont chicanes. T'sais. En bout de ligne, c'est l'immigrant qui est pogné au milieu de tout ça et qui dit « Hey, les amis, c'est dur d'immigrer dans votre pays. Vous avez vraiment des difficultés administratives. »
Ouais, c'est ça.
Moi, je pense à tous les entrepreneurs qui ont fait venir l'immigration économique. Là. T'sais, vraiment, là, un McDo, on fait venir des Philippins. Quelqu'un qui est dans un restaurant qui fait venir des gens du Maroc. Écoute, ils sont obligés d'aller voir le député pour dire « Christy, mes dossiers n'avancent pas. Peux-tu faire de quoi? » Puis tout ça. Voir que c'est de la job du député
sur
ça, mais ils sont rendus là parce qu'ils ne savent plus qui voir.
Rien mais surtout que c'est plate à dire, mais demander à un député qui est bon dans rien, mais moyen dans tout, c'est vraiment ordinaire de demander de t'aider avec ton dossier d'immigration.
Ouais, c'est ça, t'as moins envie d'y demander. Yann, il y a une question qui est plus directement pour toi, fait que je te la pose parce que je sais que plus tard, tu vas devoir ajourner. Fait que c'est Christian qui dit « Question pour Yann. J'ai 44 ans et je travaille dans la construction. Si j'ai une pension de la construction et ma maison est payée, est-ce raisonnable de croire que je suis correct pour mes vieux jours ou devrais-je quand même planifier d'en mettre plus de côté? »
Tu devrais planifier d'en mettre plus de côté parce que le fonds de pension de la CCQ, c'est de loin dans ma tête là, la pire crise de merde qu'il n'y a pas au Québec.
Puis je vous explique. Ben, Yann répond aux questions de manière tellement sincère.
Mais je vous explique pourquoi.
Yann, il n'y a jamais de bullshit avec Yann. Faut comprendre ça.
Pourquoi il y en aurait?
Ben, j'ai pas dit qu'il y en avait. J'ai dit qu'il n'y en a jamais, Calis. Écoute, quand je te parle.
C'est que tu as deux types de fonds de pension généralement offerts par les employeurs. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Tu as une cotisation déterminée. Donc, ce qui est déterminé, c'est le montant qui est cotisé par l'employeur et l'employé. On met ça dans un pot, c'est placé. Éventuellement, tu prends ta retraite. On ne sait pas combien d'argent ça va donner, mais tu pars avec ton pote, puis après ça, tu gères ça toi-même, tu décailles ça pour tes vieux jours. Fait que ça, c'est un mode de fonctionnement qui est de plus en plus populaire parce que ça enlève beaucoup de risques aux employeurs. Fait qu'on va de ce côté-là beaucoup. L'autre type, c'est une prestation déterminée. Les employés de l'État ont ça. Il y a de moins en moins de régimes à prestations déterminées présentement au Québec. Mais ce type-là, ça le dit, c'est la prestation qui est déterminée. Donc, on te fait une promesse. En général, le plus commun, c'est que tu vas avoir 2% de revenus garantis à ta retraite par année de service. Donc, tu travailles 30 ans, on garantit 60% de ta paye quand tu prends ta retraite. À chaque année, tu dois cotiser pour ça, l'employeur doit cotiser pour ça, on met de l'argent dans une caisse et des actuaires à tous les 3 ans déterminent s'il manque d'argent ou pas dans le régime. Puis c'est là qu'on ajuste les taux de cotisation, ainsi de suite. Ça, c'est les deux grands types. Le régime de la CCQ est unique en son genre. C'est une combinaison de cotisation déterminée et de prestation déterminée. Donc, pendant ta vie active, c'est une cotisation déterminée. Donc, tu accumules l'argent dans une caisse, puis ça va créer un certain montant à la fin. Mais quand ça vient le temps de décaisser, ça se transforme en prestation déterminée. Donc, tout dépendant du montant qui est dans la caisse, on va acheter une rente garantie avec ça, puis tu vas recevoir une prestation déterminée pour le reste de tes jours. Tu peux aller carrément chercher le meilleur des deux mondes, comme tu peux aller chercher le pire des deux mondes. Les gens qui ont pris leur retraite en 2009 et 2011 ont eu exactement mais c'est quoi avoir le pire des deux mondes. Leur fonds à cotisation déterminée a mangé une volée en 2009. Tout le monde comprend ça. Il y a eu la crise économique 2008-2009. Les marchés financiers ont baissé de 51%. S&P 500 a baissé de 51% dans cette période de temps-là. Donc, il y avait 500 000 d'accumulés dans le montant. Il y avait 200 000 d'accumulés là-dedans. Ça a été coupé en deux carrément. Crise économique fait en sorte que les gouvernements veulent fighter cette crise économique-là en stimulant la demande. Donc, on va imprimer de l'argent. On va baisser les taux d'intérêt. On baisse les taux d'intérêt pour stimuler l'économie. Donc, tu viens de perdre 50% de tes actifs parce que la bourse a baissé. Et maintenant, tu achètes ta rente garantie qui est basée sur la hauteur des taux d'intérêt. Plus les taux d'intérêt sont élevés, plus la rente garantie qu'on te promet va être élevée. Mais qu'est-ce qui arrive dans une crise économique? Bien, les taux d'intérêt baissent. Fait que quand tu arrives pour acheter ta rente garantie, tu viens de manger tes bas avec la crise boursière. Fait que c'est comme le double whammy, là. Tu t'as mangé ta volée sur tes actions, tu fais ta conversion, puis là, ta prestation déterminée, c'est une catastrophe. Fait que tu peux avoir le pire des deux mondes. Les gens qui ont pris leur retraite avec la CCQ dans ces années-là, c'était déprimant. Les rentes qu'on leur promettait n'étaient pas plus élevées que celles qui étaient promises dans les années 2000-2001. C'est capoté d'une certaine façon. Évidemment, tu peux avoir le meilleur des deux mondes. Tu peux prendre ta retraite dans une phase d'expansion économique incroyable avec des taux d'intérêt très élevés. Ou est-ce que là, c'est carrément le double whammy aussi? Ou est-ce que là, ton montant de cotisation déterminé est extrêmement haut? Et en plus de ça, les taux d'intérêt sont élevés lorsque tu fais ta conversion en prestation déterminée. Mais ça, moi, c'est le risque catastrophique qui me fait freaker dans cette histoire-là. Fait qu'il y ait un bonus d'avoir eu les deux effets positifs, c'est une chose. Mais d'avoir les deux effets négatifs, c'est une catastrophe. Quelqu'un qui est juste en prestation déterminée, ça ne lui arrive pas. Quelqu'un qui est juste en cotisation déterminée, ça ne lui arrive pas. Mais il y a des situations, il y a des années où est-ce que prendre sa retraite avec la CCQ, ça peut vraiment être une catastrophe. Puis le pire dans tout ça, c'est que c'est rare que les travailleurs de la construction choisissent de prendre leur retraite par choix. Souvent, ils prennent leur retraite parce qu'ils sont maganés prématurément. Quelqu'un qui pose de la céramique là, à 53, 54 ans, vous savez c'est quoi ça fait, commence à être magané. Fait que ça se peut que ce soit une invalidité physique qui t'oblige à prendre ta retraite. Fait que c'est vraiment un mauvais fonds de pension parce que tu peux avoir le meilleur des deux mondes, tu peux aussi avoir le pire des deux mondes. Moi, je pense que ça devrait être corrigé, cette affaire-là. Ne serait-ce que pour ce qui est arrivé en 2009 et 2011. Mais les gens. Puis, il est moins généreux que les gens pensent aussi. Les rentes qui sont fournies pourraient être plus généreuses, mais il faudrait cotiser plus. Fait qu'en tout cas, pour les gens de la construction, sérieusement, là, votre fonds de pension, fiez-vous pas trop là-dessus. Mettez-vous-en quand même un peu de côté parce qu'il peut vous jouer des taux solides éventuellement.
Ben, Christian, je vais résumer la réponse de Yann. Prends rendez-vous. ça ressemble un peu à ça, là.
Ben, c'est comme n'importe quoi, tu sais. C'est mieux que rien. C'est vraiment mieux que rien.
Ben oui,
c'est pas inadéquat dans bien des situations, mais il y a des années où est-ce que tu... C'est sûr que quand je rencontrais quelqu'un de la construction qui me disait qu'il voulait prendre sa retraite, par exemple, en 2011, je dis tu devrais peut-être attendre un peu. Là. Le timing est quand même pas très bon. Prendre sa retraite en 2020, ça fait beaucoup plus de sens qu'en 2011. Puis peut-être même qu'en 2024, ça va faire plus de sens qu'en 2020, éventuellement.
Ouais, non, c'est clair. Martin, qui pose une question un peu technique, il dit « En augmentant le taux directeur, les banques empruntent à un plus haut taux d'intérêt à la Banque du Canada. Comment ça fonctionne? Les banques remboursent à la Banque du Canada et la Banque du Canada fait quoi avec les intérêts remboursés? »
Ben là, premièrement, la Banque du Canada a des dépenses elle-même, elle paye son monde. Puis s'il y a un profit à la fin de l'année, elle envoie un chèque au gouvernement fédéral, tout simplement.
OK.
Ben, en fait, je pense que la question, si je l'ai bien compris, c'est comment est-ce qu'il est chargé? C'est sur les overnight, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, des fois, les banques se doivent de l'argent entre eux. Fait qu'ils se font, ils se font des prêts pour couvrir. C'est les overnight loans entre les banques pour couvrir les balances qu'ils ont. C'est ça qui est taxé. C'est sur ça qui n'est pas taxé, mais qui a un taux d'intérêt qui est appliqué. La réalité, c'est que le taux directeur, ce n'est pas vraiment une donnée aussi pertinente qu'on croit. C'est juste celle que les médias peuvent comprendre. Parce que leur capacité...
C'est tellement vrai, pareil.
C'est parce que la plupart de ce qui détermine la politique monétaire, c'est ce qu'on appelle les open market transactions. Je ne sais pas c'est quoi, les opérations sur marché ouvert ou whatever.
Ah oh, oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est
opérations sur marché ouvert, c'est la traduction était simple. Ce que le gouvernement a fait, c'est qu'ils vont, la Banque centrale va racheter ou vendre des titres obligataires. Et en vendant ou en achetant ces titres obligataires, lorsqu'elle en vend, ce qu'elle fait, c'est qu'elle obtient
des liquidités.
Donc, elle retire de l'argent du système monétaire. Lorsqu'elle en achète des banques, elle donne de l'argent en échange. Donc là, elle introduit des liquidités. La plus grosse partie de ce qui compte, c'est ces transactions-là. Tout ce que le taux directeur fait vraiment, là, je ne veux pas être plate, c'est signaler la direction de la politique monétaire. Je pense que c'est largement... Bon, il y a un rôle. Là, donc,
ben l'effet escompté marche dans le sens que à peu près tout ce qui est taux d'intérêt de court terme, quand il y a un ajustement de la banque variable, exemple, le taux préférentiel dans les banques qui fait en sorte que ça détermine votre taux variable sur votre hypothèque, va être ajusté. Généralement, si vous voyez une hausse de 25 points de base, vous allez voir une hausse de 25 points de base en taux préférentiel. Je dis généralement parce que ce n'est pas tout le temps le cas. Ça arrive que ce n'est pas exactement le même.
Mais je te dirais que si on devait diviser, mettons, tu as une expansion monétaire qui est faite ou tu as une contraction monétaire qui est faite, peu importe, disons 80 % de ce qui va causer la contraction, ça va être la vente ou l'achat de titres obligataires. Alors que le taux directeur lui-même va peut-être expliquer 20 %. Mettons que c'est 50-50, mais c'est peu importe c'est quoi le ratio, là, moi j'ai plus tendance à croire que l'achat et la vente de titres obligataires, c'est ce qui compte, c'est ce qui a vraiment le plus gros effet. Par contre, ce que le taux directeur dit, c'est que pour que des gens qui n'ont aucune connaissance en macro, ce qui inclut par contre, ça dit en passant, des gens que je pense qui travaillent à la Banque centrale des fois, là, j'ai comme vraiment une...
Oh, t'as fermé ton micro, Vincent, t'entends plus.
On t'a comme perdu, Vincent, ton son. Là.
OK, on t'entend plus, Vincent. Fait que réponds-nous ça.
C'est détaché pendant deux secondes.
Fait que t'étais en train de dire...
Il y a bien des gens dans les banques centrales qui, je pense, ne comprennent même pas la macro pour commencer. Fait que,
c'est Jerome Powell qui t'a censuré. Là. C'est
le point est assez important.
Ouais, c'est ça.
Mais peut-être renchérir un peu, je pense que ce qu'on essaie de comprendre dans la question, c'est vraiment la mécanique. Dans le fond, les taux overnight qui est vraiment touché avec le taux directeur, il y a quelqu'un qui récolte l'intérêt de ça. C'est effectivement la Banque centrale. Donc, il y a des revenus au niveau de la Banque centrale. Puis comme je disais aussi, ils ont aussi des dépenses. Ils ont des gens à payer et tout ça. Puis parce qu'on a vu un extrait récemment, je pense que c'est Frank qui m'a l'avait envoyé. C'était avec Pierre Poilievre qui le questionnait, notre dirigeant de Banque centrale au Canada. Puis, on lui posait comme question, c'était la première fois, je pense, depuis très longtemps que la Banque centrale faisait un déficit. Il faisait comme 35-40 ans qu'il n'y avait pas eu de déficit au niveau de la Banque centrale. Donc, il y avait vraiment un déficit de ce côté-là. Puis, c'était assez technique. Puis, Pierre le questionnait là-dessus. Mais ce qui expliquait assez clairement, c'est qu'à chaque année, normalement, quand il y avait un surplus au niveau de la Banque centrale, il remettait tout simplement un chèque au gouvernement fédéral. C'était envoyé dans les comptes publics, tout simplement. Donc, les revenus qu'il avait fait moins leurs dépenses faisaient qu'il y avait un revenu éventuellement. Pas un profit, mais un surplus.
C'est intéressant quand même d'avoir ce genre de questions-là.
J'ai presque envie de faire une défense de Pierre Poilievre. En fait, pas presque envie. Là-dessus, je pense que c'est lui qui a compris le plus sur la politique monétaire au Canada.
Ben oui.
C'est Jack Mitt. Banque centrale indépendante. Frank, je t'entends pas. J'entends Yann, mais j'ai pas entendu. La voix de Frank n'est pas arrivée.
Toi, Yann, tu m'entends-tu?
Oh, oui, j'entends Frank. On entend Frank, il n'y a pas trop.
OK, il y a quelque chose de weird avec mon micro.
Ben, au pire, actualise avec.
Ferme ta page, puis reviens.
OK, je reviens.
Ça fait ça souvent quand on déplug ou on replug un appareil de notre côté.
Vincent, de retour, m'entend-il?
Oui, là, je t'entends parfaitement.
OK, c'est ça.
Écoute, quand la Banque centrale une vraie Banque centrale indépendante est une amélioration en termes de politique monétaire. Tu ne veux pas que le politique participe trop à la chose, mais tu veux quand même que le politique ne donne pas une indépendance complète à la banque, parce que là, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes un chèque en blanc pour faire n'importe quoi. Fait qu'il faut qu'il y ait des règles qui soient préétablies comme étant celles qui
sont... dans le choix de la personne qui dirige.
Exactement. Donc, tu dis il y a une cible d'inflation, ça peut être une cible de dépenses nominales. Je m'en fous de c'est quoi la règle. Tu établis une règle, mais après ça, tu laisses la banque libre de comment établir la règle. Le politique établit la règle, la banque choisit la manière de joindre cette règle-là, et le politique ne peut plus jouer avec la règle, à moins qu'il y ait un certain seuil d'admission, genre 2/3 de la chambre vote pour, quelque chose comme ça. Peu importe. Mais ça, par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait un mécanisme d'imputabilité à l'égard de la banque. Par exemple, si le gouverneur de la Banque centrale n'atteint pas les cibles désirées, il est licencié. C'est ça qui est nécessaire.
C'est essentiellement ce que Pierre Poilievre disait.
Exactement. Maintenant, la question, c'est est-ce que vraiment c'est la faute de la Banque centrale? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a une grosse partie de la faute qu'ils se sont... il y a aussi, tu sais, Brave New Times, qu'il y a des choses que...
Ils naviguaient à l'aveugle, puis ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient.
Il y avait un élément d'incertitude qui peut peut-être excuser, tu sais,
veux-tu dire quelque chose?
Je pense que le pire, c'est les fausses promesses. Moi, je pense que c'est plus ça.
Ouais, non, mais ça c'était des nouveaux... Je ne suis pas prêt à lui lancer le bâton pour ça, parce que les fausses promesses ou les forward guidance, exactement, c'est ça le terme. C'était réellement une forme d'outil de politique monétaire qui était testé, qui était utilisé. Mais il y a une chose que j'ai compris pendant la pandémie, c'est qu'avec une économie qui était fondamentalement fermée à bien des égards, il n'y avait aucune espèce d'idée que ce qu'ils faisaient, si c'était suffisant, si c'était trop, tout ça. Ils naviguaient vraiment à l'aveugle, ils n'avaient pas leurs outils habituels. Et tu sentais qu'ils étaient un peu dépassés par les événements. Ils ont essayé toutes sortes d'affaires. Ils ont mis en place des mesures monétaires qu'ils n'ont jamais essayées auparavant, par le passé. Surtout aux États-Unis, il y a beaucoup d'innovations au niveau de la Banque centrale dans cette période-là. Par contre, la minute qu'ils se rendent compte avec les chiffres que l'inflation, c'est textbook monétaire. Tu sais, c'est textbook ce qui se passe un peu dans les années 70, fin des années 70-80, que c'est de l'inflation causée par une politique monétaire trop lousse. Immédiatement, ils se mettent à agir de la bonne façon, mais comme s'ils savaient qu'est-ce qu'ils faisaient, dans le sens que on a déjà vécu ce qu'on est en train de vivre présentement. Donc, ils savent présentement quoi faire. Ça ne fait pas du bien. C'est un coup de batte de baseball en pleine face à chaque fois qu'ils haussent les taux d'intérêt. Mais présentement, tu as vraiment l'impression que la Banque centrale est en contrôle parce qu'ils savent quoi faire pour remédier à la situation qu'ils ont eux-mêmes créée. Ils en sont conscients qu'ils l'ont eux-mêmes créé. Ils n'ont peut-être pas l'humilité de l'avouer aussi candidement. Là.
Bon, mais ils ont l'air au courant que ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine. Là. À voir mais, ce qu'ils font. Là.
Ouais. Ils sont au courant que ce n'est pas à cause de la guerre en Ukraine.
Il y a juste les médias québécois qui n'ont pas encore compris.
Mais le pire, c'est que la guerre en Ukraine n'a pas contribué à l'inflation, mais zéro. Ça, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Encore une fois, l'inflation, c'est un phénomène monétaire. OK? Tu peux avoir une augmentation d'un prix qui est important dans l'économie en général. Par exemple, l'essence. Mais ça, ce n'est pas de l'inflation. C'est une hausse d'un seul prix relativement à tous les autres, ce qui dénote une rareté plus importante du bien. Cette augmentation de prix-là c'est une bonne chose comme signal économique. Tu ne veux pas intervenir avec. Par contre, peu importe comment tu le regardes,
l'augmentation générale des prix.
L'augmentation générale des prix. Est très clair, là, la Banque centrale a manqué à sa job. Il y a eu je ne sais pas si c'est parce que c'est pas que c'est par incompétence, je pense que c'est parce que le politique a vraiment montré que c'est une illusion, l'indépendance des banques centrales. L'idée, ce qu'on devrait clairement définir, peut-être que Poilievre n'avait pas la capacité de communiquer ce débat, peut-être pas de capacité intellectuelle, mais dans le sens que c'est complexe comme conversation, de juste dire quand le gouvernement du Canada vous donne une cible d'inflation, vous la respectez ou il y a des conséquences. On vous laisse libre de faire ce que vous voulez, mais la minute que tu n'atteins pas la cible ou que tu la dépasses, on te sac dehors. Puis ça, c'est correct. Ça, là, n'importe quel économiste est d'accord avec cette idée-là. Le gold standard en termes d'indépendance des banques centrales...
Je pense que c'est la raison pourquoi Jerome Powell est aussi agressif aux États-Unis.
Jerome Powell est vraiment le pire gouverneur de la Banque centrale qu'il a jamais eu. Il a retardé toutes les hosties de calice de m'excuse de sacré, là, mais il a tout retardé en termes de contraction monétaire qui était nécessaire jusqu'à ce que sa maudite confirmation pour la renomination.
Après ça, il a changé bout pour bout.
Après ça, il a changé bout pour bout, ce qui montre que la pire indépendance de toutes les banques centrales dans les pays avancés, c'est la Federal Reserve. C'est la banque centrale qui est vraiment la plus politique de toute la gang.
Ça, c'est
la
vrai
limite,
ce que tu dis là, hein,
tu peux défendre la ECB.
Le Jerome Powell avant sa confirmation et le Jerome Powell après sa confirmation, c'est pas
c'est
la même personne.
C'est deux personnes différentes. Maintenant, il pèse sur les breaks, puis fine. Mais la réalité, c'est qu'il a aussi joué la game pour que les politiciens le renominent.
Oui.
Et c'était absolument pas clair. Puis même encore là, il y a beaucoup de macros qui disent qu'il va pas assez loin présentement. Là. Puis je parle pas genre de...
Je suis assez d'accord avec ça. Mais...
Je te dirais qu'il y a peut-être un 50% des macros qui disent... Put the brake harder. Right? Le gold standard des banques centrales, c'est la Nouvelle-Zélande qui a la banque centrale la plus radicale en termes d'indépendance. Et il y a des pénalités, non seulement en termes de job. Est-ce que c'est la Nouvelle-Zélande? Ah, j'ai un doute maintenant parce que j'oublie. Ça fait longtemps que je ne fais plus de macro, là, plus mon doc. Mais il y a une des banques centrales dans genre, les pays du. Des pays les plus riches de l'OCDE, j'oublie laquelle j'ai un doute.
Mais
je ne vais pas faire de
guerre. On voit souvent les nouvelles à la Nouvelle-Zélande.
Mais tu es le gouverneur de la Banque centrale dans ce cas-là, non seulement peut être licencié, mais s'il dévie de la norme, il y a des pénalités de son salaire. Mm. Et les autres gouverneurs aussi. Donc, il y a vraiment comme, non, on t'a donné une cible. If you don't meet it, there are consequences. Ça, c'est vraiment... Fait quand Poilievre disait qu'il était prêt à... Dans le temps, je pense que c'était Paulos qui était encore là, quand il commençait à faire ses commentaires. Mais...
J'ai jamais compris pourquoi ça a dérangé autant de monde. Ah, il attaque une institution. Ouais, mais Chris, ce que c'est tu veux de ces institutions-là, c'est qu'ils soient redevables d'une cible qui a été donnée.
Ah, mais c'est parce que là, présentement, là, t'as Warren aux États-Unis avec Bernie, Crazy Bernie, qui sont en train d'attaquer l'institution. T'as Jagmeet Singh au Canada qui est en train d'attaquer l'institution.
Mais lui, c'est correct,
centrale.
Parce que ça, c'est une critique.
Ouais, c'est ça.
Parce que lui,
ça me fascine, là, ce débat-là.
Avec
c'est
la greedflation.
Mettons qu'on arrive et qu'on dit tout le monde s'entend que l'inflation est une forme de taxe et qui affecte très négativement d'abord et avant tout les personnes les plus pauvres. Parce que, je veux dire, les besoins de base. Les besoins de base, tu sais. Les éléments les plus volatiles de l'inflation, souvent, c'est justement le pétrole, c'est justement la nourriture. Ben, pour ces gens-là, la proportion de leurs revenus dédiés à ça est quand même assez élevée. Deuxième chose, ils n'ont pas de marge de manœuvre. Je veux dire, la personne qui est plus aisée est dans une position qu'elle peut faire des substitutions beaucoup plus facilement que la personne qui est dans une classe inférieure au niveau salarial. Fait que l'inflation affecte extrêmement négativement les pauvres. Quand tu arrives et tu dis « Vous devriez arrêter d'hausser les taux d'intérêt, vous êtes en train d'appauvrir la classe moyenne, vous êtes en train de créer des problèmes économiques majeurs, la banque centrale, vous faites une critique de la banque centrale quand vous êtes de gauche, c'est la chose la plus stupide que j'ai jamais vue de ma vie. Ça veut dire que vous voulez laisser courir l'inflation pour protéger les propriétaires de maisons qui se seraient trop endettés. Éventuellement, qui ont de la difficulté financière créée par les hausses de taux d'intérêt.
Ce que tu veux dire, ce n'est pas les propriétaires de maisons, c'est l'électeur médian. Parce que l'électeur médian est propriétaire de maison. Fait que le NPD, quand il dit ça, là, je m'excuse, mais C'est
électoraliste.
C'est le commentaire le plus électoraliste. Aucun souci pour les pauvres.
Mais c'est ça ou c'est pour protéger le pouvoir du gouvernement de continuer à emprunter et de niaiser avec l'argent?
Oui, mais là, si c'est ça, il y a encore une compréhension plus niaiseuse de l'économie, je pensais.
Le gars pense que l'inflation...
Never overestimate their skills.
Yann, Vincent, le gars pense que l'inflation, c'est à cause de l'eau blase. Rendu là, je veux dire, je peux rien rajouter de plus. L'inflation, c'est l'Ukraine puis l'eau blase avec sa greedflation. T'sais, je veux dire, si c'est ça ta compréhension de ce phénomène monétaire-là, je veux dire, je ne sais même pas pourquoi qu'on te parle. Là,
écoute, juste pour montrer à quel point c'est stupide, tu peux aller sur Twitter et tu cherches n'importe quel économiste qui fait des scatterplots entre le taux de concentration dans des industries puis le taux de changement dans les prix sur plusieurs périodes. Zéro changement! C'est quand un tweet d'une corrélation te montre que ça fait pas de sens, tu devrais fermer ta gueule. Je m'excuse, là, mais si tu penses vraiment... Puis ça, sérieusement, c'est... Le fait qu'il y a personne qui fait des fact-checks là-dessus, là, c'est la chose qui me fait le plus fâcher parce que toutes les autres se font checker quand ils disent des choses qui sont controversées, mais qui ont une sorte de support. Celui-là, il y a zéro support, là. Je pourrais parler à l'économiste le plus à gauche de la gang. Là. Je pourrais aller voir Dean Baker, par exemple, aux États-Unis, qui est clairement à gauche. Il ne dit pas ça. Là. Il va dire que peut-être que dans certaines industries, son propos va être super avancé, dans certaines industries à haute concentration, ils sont plus prêts à augmenter les prix rapidement que les autres, mais les autres vont rattraper éventuellement.
Le pire,
c'est
la
peut-être
ligne,
juste le délai d'ajustement au prix.
S'il y avait une compréhension de l'économie, ce qui serait vraiment facile, c'est que les conditions facilitantes mises en place par la... S'ils veulent attaquer la Fed, là, les conditions facilitantes sur le crédit de 2020 puis début 2021, mises en place par la Fed ou par la Banque centrale au Canada, ont vraiment permis aux riches de s'enrichir, aux entreprises de cacher de l'argent qu'ils n'auraient pas dû avoir. Puis ça, c'est un fait, cette affaire-là. Tu es vraiment dans une position où est-ce que tu dis, si vous voulez les attaquer, la Banque centrale, c'est là-dessus pour dire, aujourd'hui, on est obligé d'augmenter les taux d'intérêt pour combattre l'inflation parce que vous avez été stupide. Ce que pas mal Pierre Poilievre disait assez tôt.
Ouais, j'avais pas trouvé son propos particulièrement offensant. Là.
Non, il avait raison. Ils ont erré. Ils ont été. Puis il a commencé à parler d'inflation avant qu'il y ait de l'inflation.
Il a cassé le narratif. Puis je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui ont passé. Je pense que c'est Brian Breguet qui les a mis. Maintenant, la majorité des Canadiens, je pense que c'est 63%, sont convaincus que l'inflation est reliée à la politique monétaire et non pas à la guerre en Ukraine. Mais quand Poilievre est arrivé avec ça, là, il a cassé le narratif parce que 100% de l'information véhiculée dans les médias que tu peux lire tous les jours, là, sans nommer le nom, là, c'était, puis même, ici, le ministre des Finances racontait ça, le premier ministre, tout le monde racontait ça. « Ah, mais on ne sait pas ce qui se passe, l'inflation, c'est comme un phénomène météorologique qui est arrivé. » Mais qui pouvait prévoir que Poutine allait sauter un gasket puis envahir l'Ukraine?
C'est exactement ce que Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, dit elle-même. Écoute, ça, c'est capoté, là.
Ça, c'est une des règles, je pense qu'on devrait mettre carve in stone. Aucun économiste français a le droit de diriger une banque centrale.
Ben surtout qu'elle n'est pas économiste. D'avocat. Ça part mal.
Je ne sais même pas ça, c'est encore pire. Je pense vraiment, là, sérieusement, dans la profession, je ne sais pas, là, mais j'ai trouvé comme 3 économistes français qui sont libéraux, puis ils sont tous émigrés aux États-Unis. Un d'eux, c'est mon co-auteur, Louis Rouanet. D'ailleurs,
il y a Brian Breguet aussi.
Le grand économiste français. Si le fait, c'est que j'allais manquer la joke, je m'en allais dire. Mais il est suisse. Non, je ne peux pas manquer la joke. C'est un grand économiste français, peut-être même belge.
Brian, t'es pas fin avec. Tellement un bon gars, là. Écoute, t'es méchant avec lui tout le temps.
Écoute, you gotta be distal enough to ride.
Mais justement, il y avait une question là-dessus, puis on ne change pas du tout de sujet, là, mais c'est que quelqu'un qui pose, c'est Simon Rochelot qui pose cette question-là. Comment expliquer que la Banque centrale européenne continue de faire du quantitative easing bien qu'elle augmente ses taux directeurs?
Je le comprends. Mais tu sais, la politique monétaire sur le taux d'intérêt, on vise à avoir un impact sur les taux d'intérêt de court terme. Le quantitative easing ou quantitative tightening, on vise à avoir un impact sur les taux à moyen et long terme. C'est ça l'objectif généralement qui est visé. la seule explication possible pour faire exactement ce qu'ils font, là, c'est des explications politiques. Il y a des gouvernements qui sont dans la merde avec leurs obligations. Puis pour ne pas subir des taux d'intérêt trop élevés, pour être capable de continuer d'emprunter, il faut que la Banque centrale achète leurs obligations.
Mm.
Mais c'est pas pour fighter l'inflation. Présentement, là, la Banque centrale européenne elle a une inflation qui est galopante. C'est une banque centrale qui a appris à dealer avec la déflation dans les dernières années. Là. Mais là, ils ont vraiment une forte inflation. Ils bougent les taux d'intérêt pour fighter cette inflation-là. Mais de l'autre côté, ils scrapent toute leur intervention en allant essayer de garder les taux d'intérêt de moyen et long terme plus bas avec du quantitative easing. Il y a juste un politicien qui pourrait penser une chose aussi stupide que ça à faire, honnêtement. Là.
Écoute, pour vrai, je n'ai pas de réponse pour Simon là-dessus. Ce que la Banque centrale européenne fait, je ne comprends vraiment pas.
Ben, c'est Christine, à la base, Christine Lagarde, je veux dire, qu'est-ce qu'elle fait là?
C'est... Écoute, je regardais des commentaires de... Parce qu'en termes de macro sur Twitter, il y a vraiment une communauté très active de commentaires. Fait que souvent, ce que tu as, c'est que tu as des takes super techniques, mais qui sont simplifiés. Fait que j'ai pas besoin de lire genre un article avec un modèle de DSGE qui me prend 3 heures à lire. Là. Mm-hmm. Puis DSGE, c'est pénible. C'est de la modélisation dynamique d'équilibre. C'est l'enfer. C'est lire des articles là-dedans, là, c'est...
Hey, messieurs, j'ai envie de me percer. Terminer ça avec nos gens. Je dois quitter. Fait que ayez beaucoup de plaisir avec toutes ces belles questions de Q&A là.
Super. Yes. Mais écoute, pour vrai, j'ai envie de me percer les yeux quand je lis ces articles-là. Fait que, la réponse dans ce cas-là, c'est parce que c'est les commentaires que les gens font sur Twitter. Je résume ça. Mm-hmm. Puis tous ceux que j'ai vus sur le CB sont tirent dans toutes les directions. Il n'y a pas l'air d'avoir comme une sorte de point commun vers lequel les gens convergent, ou une sorte de point d'agrément sur c'est quoi exactement. Ils ont l'air de tirer partout. Fait que j'ai vraiment l'impression que les gens ont une vision de l'euro qui est comme vraiment en dérive. Puis je pense honnêtement que l'Europe vit une autre de ces cycles de crise existentielle dans lequel il y a l'Union européenne. Et là, tu as le pushback ultranationaliste avec le Brexit, mais aussi avec des partis comme Meloni en Italie. Tu as l'espèce de push où est-ce qu'il y a une tension qui réapparaît et là, les pro-européens sont un peu divisés sur c'est quoi le projet qu'il faut mettre de l'avant. Puis je pense que c'est ça qui se reflète un peu indirectement dans les politiques conduites à la banque, à l'ECB. Mais si, pour le reste, je ne le sais pas. C'est ça qui est difficile.
Mais si on élargit un peu la question de Simon, parce que je me souviens que maintenant, on avait parlé de justement la gestion pandémique. Là, puis tu avais dit, ben, une affaire qui est bonne, c'est quand justement des États essaient des trucs différents. Comme ça, au final, tu as plus d'expérience, c'est où tu peux voir, genre, ah, ben ça marche, ça marche pas. Puis, tu sais, je regardais un peu, bon, au Canada, tu sais, on semble y aller quand même avec des hausses de taux assez agressives dans une courte période de temps. Là, je regardais, mettons, au UK, ben, ils ont commencé avant, mais ils ont moins monté. Après ça, l'Union européenne fait autre chose. Ailleurs, ils font autre chose. Tu penses-tu que c'est une bonne idée au global? Parce qu'au final, peut-être qu'on va pouvoir se dire, ouais, la meilleure recette, c'était ce qu'eux ont fait.
Écoute, ça, c'est une des instances dans lesquelles je suis obligé un peu de dire que je ne le sais pas. Parce qu'il y a quand même des gains en termes de politique monétaire avec la coordination. Il y a un livre qui est super connu qui s'appelle Golden Feathers de Barry Eichengreen qui montre comment dans la Grande Dépression, l'absence de coordination dans les premiers moments de la contraction monétaire de la Grande Dépression a vraiment empiré les choses de beaucoup. Je ne sais pas à quel point je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais le point fondamental que ça n'a pas aidé est vrai. Je ne sais pas à quel degré ça n'a pas aidé, mais la vérité fondamentale est là. Et un autre article qui a suivi plus tard, c'est par exemple, la France, au début de la Grande Dépression, faisait ce qu'on appelait de la stérilisation. Donc, elle importait énormément d'or, mais elle ne la réintroduisait pas en circulation. Donc, c'est en fait pas de la stérilisation, thésaurisation, c'est ça le nom technique que ça a. Ce que ça fait, c'est que ça causait une pression internationale sur le niveau des prix parce que l'or ne circulait, n'était plus utilisé. Il s'était promis qu'il ne circulerait plus, ce qui est l'équivalent d'une contraction de la masse monétaire. Mm-hmm. Il y a un article qui est dévoué sur pourquoi la France faisait ça. C'était une question d'économie politique. Mais ça a contribué à empirer la récession. Mais ça, c'est parce que la Banque centrale de France avait décidé que la Banque de France avait décidé d'agir d'une manière complètement non coordonnée avec les autres banques centrales, de sa tête. Fait qu'il y a un coût à l'absence de coordination internationale entre les banques centrales, mais il y a quand même des bénéfices à l'expérimentation. Fait que...
Ouais, c'est dur à dire, moi, je comprends.
Je n'ai pas de réponse qui est comme convaincante, qui me convainc moi de ce que je dis. Là. Je veux dire, surtout que je donne le caveat que je ne suis pas un macroéconomiste moderne. Toute la macro que je fais s'applique près, disons, 1930.
Ouais.
Où est-ce que tu avais de la concurrence monétaire avec du free banking? Là, je suis beaucoup plus confortable dans ce système-là parce qu'il y a un framework qui est beaucoup plus, tu sais, historiquement compréhensible pour moi. Le framework moderne, je n'ai pas de familiarité aussi forte avec que j'ai, par exemple, avec comment est-ce que parce qu'il n'y avait pas de Banque du Canada, mais comment le ministère des Finances au Canada gérait la politique monétaire au 19e siècle. Là. Ça, je peux t'en parler pendant des heures, mais les trucs modernes, je suis beaucoup moins familier.
Non, c'est ça. Écoute, on va continuer un peu à répondre à des questions sur Patreon. Fait que si les gens veulent nous rejoindre, patreon.com/iSénéchal, on va jaser. On prend d'autres questions des auditeurs, c'est aussi simple que ça. Puis si vous voulez poser votre question ou vos questions, rejoignez-nous, vous pourrez le faire la prochaine fois.